Et par actualité.
Bienvenue à l'émission Les Paractualités, édition du 24 janvier 2018. Hélène Denis avec vous et en manchette aujourd'hui, un donateur anonyme vient en aide aux enfants atteints de troubles neurologiques. Le bilinguisme serait un atout pour les enfants autistes selon une étude. Neptune souhaite devenir un joueur important de l'industrie du cannabis. Elsa Lalonde, un combat pour l'accessibilité. En entrevue, je reçois Delphine Guy-Bourget, bibliothécaire pour la Ville de Montréal, qui viendra nous parler des jeux de société adaptés disponibles dans les bibliothèques de Montréal. Et Renée Hébert, agente d'information et de liaison pour l'organisme L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, volet autisme Chaudière-Appalaches. Madame Hébert viendra nous présenter son organisme. Tiré de TVA Nouvelles, un donateur anonyme vient en aide aux enfants atteints de troubles neurologiques. Des enfants atteints de paralysie cérébrale auront droit à des traitements en chambre hyperbare grâce à un généreux donateur touché par un reportage du Journal de Montréal. Sans vouloir être identifié, un homme de la région de Montréal a récemment contacté le journal pour offrir 3 chambres hyperbare d'une valeur de près de 18 000 $ chacune qui ne lui étaient plus utiles. Dans nos pages, en octobre dernier, des parents lançaient un cri du cœur pour que ces traitements soient inclus aux soins offerts par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Le donateur anonyme a admis avoir été profondément touché par les familles réclamant de l'aide du gouvernement pour obtenir ces traitements, qui ont grandement amélioré la qualité de vie de leurs enfants atteints de paralysie cérébrale ou autres troubles neurologiques. Une avenue qui demeure toutefois très coûteuse alors qu'il faut débourser entre 2 300 et 4 000 pour faire la location d'une chambre hyperbare pendant 40 jours. Très engagé auprès des familles, Charles-Antoine Sivigny, qui a lui-même une jeune fille atteinte de paralysie cérébrale, a récupéré les chambres et mis sur pied un système de partage pour aider le plus d'enfants possible ayant des atteintes cérébrales. Il est aidé par le psychiatre et spécialiste en réadaptation pédiatrique à l'hôpital Sainte-Justine, le Dr Pierre Marois, pour coordonner ses opérations. Le bilinguisme serait un atout pour les enfants autistes, selon une étude publiée dans la presse. Être bilingue pourrait être un avantage pour les enfants autistes, selon une étude réalisée par une équipe de chercheuses de l'Université McGill à Montréal. Les résultats du projet de recherche ont été publiés récemment dans la revue Child Development. Après des tests, l'étude en arrive à la conclusion que le bilinguisme pourrait accroître la flexibilité cognitive, alterner entre 2 tâches différentes chez les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme, TSA. Parler 2 langues semble être un atout quand ils doivent passer d'une tâche à l'autre, ce qu'ils ont souvent de la difficulté à accomplir, est-il noté. L'équipe de recherche en est arrivée à cette conclusion après avoir observé le degré de facilité avec lequel 40 enfants âgés de 6 à 9 ans, présentant ou non un trouble du spectre de l'autisme, unilingue ou bilingue, parlant une combinaison de 2 des 3 langues suivantes, français, anglais, espagnol, passaient d'une tâche à l'autre dans le cadre d'un test réalisé sur ordinateur. Le test qu'ils ont effectué était le suivant. On leur a demandé de classer un objet en fonction de sa couleur, lapin bleu ou bateau rouge, puis on leur a demandé de faire la même chose, mais cette fois-là en fonction de leur forme, lapin ou bateau, peu importe la couleur. Conclusion, les chercheuses ont découvert que, chez les enfants qui présentaient un TSA, ceux qui étaient bilingues obtenaient de bien meilleurs résultats lorsqu'ils changeaient de tâche que ceux qui ne parlent qu'une seule langue. Thank you. studio avec moi Delphine Guy-Bourget, bibliothécaire pour la Ville de Montréal, qui vient nous annoncer ou nous parler de quelque chose de très positif, des jeux de société adaptés disponibles dans les bibliothèques municipales de Montréal. Bonjour, Madame Guy-Bourget.
Bonjour, Hélène.
Alors, je vais vous appeler Delphine parce qu'on se connaît, hein?
Oui,
une fois de temps en temps, je travaille dans les bibliothèques de la Ville de Montréal également. Depuis quand les bibliothèques de Montréal disposent de jeux adaptés pour les personnes vivant avec une déficience visuelle?
Alors, depuis septembre 2015, en fait, c'est l'Institut Nazareth et Louis Braille qui nous a approchés et qui nous proposait donc de diffuser dans nos bibliothèques une douzaine de jeux. Donc, on a sauté sur l'occasion, évidemment, pour voir si ça répondait à un besoin de nos usagers, ce qui s'est révélé être le cas. Mm-hmm. Donc, ça fait bientôt 2 ans et demi.
Et quelle est l'offre de jeux de société adaptés à Montréal?
Donc, en fait, on a, c'est ça, une douzaine de jeux qui se promènent dans nos 45 bibliothèques. On les laisse à peu près 6 mois dans chacune des bibliothèques, en fonction de la demande des usagers et des bibliothèques en question. Donc, on a des jeux vraiment très classiques, comme le Monopoly, le Othello,
ouais.
Ce genre de jeux.
Les jeux les plus populaires, quels sont-ils?
Le Monopoly, le bon vieux Monopoly. Exactement,
ouais.
Dans sa version adaptée, il est d'ailleurs très impressionnant.
Ah ouais.
Et puis, le Bagamon aussi, il y a du domino. C'est ça, ils fonctionnent tous très bien, ça dépend des clientèles.
Est-ce qu'on peut jouer aussi à la bibliothèque ou c'est vraiment pour emprunter, là?
Alors, en fait, ça dépend des bibliothèques. En ce qui concerne les bibliothèques, il faut toujours s'assurer de téléphoner ou de se rendre à sa bibliothèque avant parce que chacune a son offre. Mm-hmm. Il y a parfois des petites différences. Donc, il y a des bibliothèques dans lesquelles on peut jouer sur place et puis d'autres où il faut emprunter. On peut emprunter le jeu pour le ramener à la maison. Ça dépend vraiment des endroits.
Est-ce qu'il y en a pour tous les âges?
Ben oui, parce qu'en fait, c'est ça, réfléchissant un petit peu, le domino. Je pense qu'à partir du moment où c'est compter et lire, le domino est peut-être le plus facile d'accès.
Ouais.
Et puis ensuite, ben c'est ça.
Est-ce que les bibliothécaires aussi peuvent expliquer les règlements de certains jeux? Ou...
Oui, bien ouais. sûr, mais en fait, ces jeux-là sont super bien conçus parce qu'il y a vraiment le mode d'emploi du jeu, enfin les règles du jeu, je pense qu'on dit, sont et en gros caractères et en braille. Donc, on peut vraiment avoir un usage complètement autonome de ces jeux. C'est vraiment une super belle offre. Donc, on peut venir s'en servir, lire soit en gros caractères, soit en braille et puis être complètement autonome. Et sinon, demander de l'aide, évidemment, les bibliothécaires sont toujours là pour ça.
Mais tant mieux. Vous me dites que vous avez apporté une liste. Vous avez tous les jeux?
Oui, j'ai la liste des bibliothèques et des jeux, enfin des jeux et des bibliothèques dans lesquelles ils se trouvent.
Ah oui, d'accord. Est-ce que ça se dit comme ça ou vous préférez nous donner une adresse Internet qui nous permet justement de vérifier leur localisation?
Je vais vous donner peut-être une adresse Internet.
Oui.
Je ne peux pas être rébarbative. Donc, vous avez, c'est bibliomontréal.com. C'est l'adresse de notre site web. Mm-hmm. Si vous faites /AU pour accessibilité universelle, vous allez arriver sur notre section générale de l'accessibilité universelle. Et puis là, il y a un endroit où on a accès aux collections. Il faut cliquer sur les collections et vous allez voir tout, évidemment, les livres audio, les livres en gros caractères et les jeux adaptés avec leur emplacement dans chacune
ouais.
des bibliothèques.
Alors, vous avez parlé du Monopoly, du Bagamon, du Domino.
Le Othello, je vais vous faire la petite liste. Le déclic des mots, frustration. Ben, c'est ça. Ça fait 6, je pense.
Ah oui, ça fait 6. Et j'imagine que vous allez vouloir augmenter le nombre de jeux.
Oui, c'est une très bonne question.
Ouais.
dès septembre 2018, en fait, grâce à un financement de la Ville de la diversité sociale, qui le programme Municipalité Amis des aînés, Accessibilité universelle, on a obtenu un financement. On est ravis, on va pouvoir diffuser plus d'une centaine de ces jeux. Donc, on va passer de 12 à plus d'une centaine. Et cette fois, ils seront vraiment disponibles en permanence dans toutes les bibliothèques. Donc, une fois de plus, téléphoner ou regarder sur Internet avant de se déplacer. Puis, il va vraiment y avoir une offre beaucoup plus conséquente. Donc, on est ravis, vraiment.
Je comprends. Qui dit plus de jeux, plus de plaisir.
Toujours.
Alors, l'adresse, si vous voulez nous la rappeler, Delphine, pour avoir des informations sur cette offre de jeux de société.
bibliomontréal.com/AU, comme dans Accessibilité universelle.
Très bien. Et pour ceux et celles qui n'auraient pas Internet, il y a un numéro de téléphone général à composer?
Je me ferai un plaisir de répondre aux appels.
Oui?
Je vais vous donner mon numéro à moi, qui est le 872-4430.
Delphine Guy-Bourget, bibliothécaire pour la Ville de Montréal, un grand merci de votre visite.
Merci
et puis,
à vous.
Ben, continuez votre beau travail.
Pas de problème. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you.
Neptune souhaite devenir un joueur important de l'industrie du cannabis. C'est tiré de Radio-Canada.ca. Des dirigeants de Neptune qui se spécialisent dans le cannabis médicinal jugent que le modèle actuel de la loi portant sur le cannabis est trop calqué sur celui du tabac. Ils invitent le gouvernement du Québec à faire la distinction entre les différents éléments qui composent le cannabis et les différentes façons dont les gens pourront le consommer. Il y a toute une panoplie de produits qui vont se développer du point de vue technologique et biochimique qui n'auront rien à voir avec ce qu'on connaît de la cigarette, a prévenu le président de la division cannabis de Neptune, Michel Timperiot. Ce dernier était à Québec mercredi après-midi pour participer aux consultations particulières sur le projet de loi 157 encadrant le cannabis. L'entreprise, auparavant spécialisée dans la fabrication d'huile de krill, s'est reconvertie au cours de la dernière année à l'extraction, le raffinement et la formulation d'huile de cannabis et souhaite devenir un joueur important de cette nouvelle industrie. Au-delà du cannabis à fumer, les produits pourront prendre plusieurs formes au cours des prochaines années, comme celle de gomme à mâcher, de gélules, de gouttes ou de bandes sous la langue, a fait remarquer M. Timperiot. Dans le soleil, Hôtel-Dieu, résilience, mode d'emploi. On a droit à une magnifique leçon de résilience ces jours-ci sur la scène des Gros Becs à Québec, avec la pièce de théâtre documentaire Hôtel-Dieu. Le collectif Nous sommes ici explore avec cran et beaucoup de sensibilité les thèmes de la souffrance et du deuil. L'auteur et metteur en scène Alexandre Fecteau les décrit comme des experts. À part deux participants, ils ne sont pas acteurs et même ceux-là y sont pour raconter leur histoire et non pour interpréter un personnage. Ils sont animateurs, blogueuses, chorégraphes, infirmières, étudiantes, improvisateurs et ils ont tous vu la souffrance et la mort de près. L'une a failli y passer quand elle a été frappée par une rare maladie du sang. L'autre a reçu un diagnostic de sclérose en plaques qui a mis un terme à sa carrière de danseuse. L'une a accompagné de nombreux patients en fin de vie alors qu'elle travaillait à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Les autres ont brusquement perdu une sœur par suicide ou des suites d'une maladie. Sur la scène des Gros Becs, où le théâtre Périscope version nomade s'est installé pour cause de réno à son bâtiment, leurs récits se croisent, se rencontrent, s'expriment en mouvement. Au terme d'une expérience théâtrale intense, on doit lever notre chapeau à ces experts complètement investis dans cette rencontre. Du partage sans pudeur de leur histoire à la communion qu'ils réussissent à créer avec le public, ils se prêtent au jeu avec une ouverture, une générosité et un courage qui forcent l'admiration. Le spectacle Hôtel-Dieu est présenté au Gros Bec jusqu'au 3 février. Et je rejoins Renée Hébert, agente d'information et de liaison pour l'organisme L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, volet autisme Chaudière-Appalaches. Bonjour, Madame Hébert.
Bonjour.
Alors, tout a commencé en 1988. Quelle est la mission de votre organisme?
En fait, L'Arc-en-Ciel, c'est un organisme à but non lucratif, un organisme communautaire qui a principalement pour mission d'offrir du soutien aux familles naturelles pour favoriser le maintien à domicile, supporter les personnes handicapées dans leur cheminement de vie. Donc, en gros, on opère une maison de répit, plus spécifiquement à Montmagny, centre de jour, donc pour la clientèle en déficience intellectuelle, déficience physique et aussi troubles du spectre de l'autisme.
Et quelle clientèle desservez-vous? Vous venez de répondre à ma question.
Oui, ben en fait, oui, cette clientèle-là, dans la région, justement, plus spécifiquement de Montmagny-Lillet, il y a des gens qui viennent aussi des régions limitrophes, là, ouais. Comme Bellechasse, les Etchemins, même Lévis. Mais oui, principalement pour ce qui est de la maison de répit, centre de jour, centre d'activité de jour, aussi les camps de jour durant la période estivale, là, on se concentre plus sur la clientèle de la région Montmagny-Lillet.
Mm-hmm. Est-ce que vous êtes le seul organisme dans la région?
Non, pas tout à fait. Il y a d'autres organismes aussi, je pense, là, entre autres, dans l'Île-et-Sud, là, dans Saint-Pamphile, ou des organismes plus de loisirs, plus concentrés sur loisirs, qui font pas nécessairement du répit-hébergement, mais d'autres activités aussi pour stimuler le quotidien là, des personnes qui ont des limitations. Il y en a d'autres aussi dans Bellechasse, dans les Aides-Chemins, dans Lévis. Mais c'est sûr qu'au niveau des maisons de répit-hébergement, c'est un petit peu plus rare. Donc, dans la région de Montmagny-Lillet, là, on est les seuls.
D'accord. Et quels sont les ateliers et les autres activités à venir?
Bien, en fait, nous, du côté de la maison de l'Arc-en-Ciel au niveau des services de répit hébergement, c'est sûr que on a toujours notre programmation avec le centre d'activité de jour. Il y a le service de garde scolaire aussi là en fin de journée. Donc, et puis tranquillement, je sais qu'il y aura la période de la relâche scolaire où est-ce qu'il y aura des activités spéciales d'organiser au niveau de l'Arc-en-Ciel. Mm-hmm. Au niveau du volet autisme Chaudière-Appalaches, là, qui est un autre volet de notre mission qui, celui-là, s'étend à toute la région Chaudière-Appalaches. Là, il y a certaines activités qui sont organisées, mais vraiment plus spécifiquement pour la clientèle, entre autres, du spectre de l'autisme là, et leur famille.
Et j'ai lu quelque part qu'il y avait un symposium qui s'organisait.
Oui, ben effectivement. Et puis ce symposium-là, on le fait aussi en collaboration avec, on l'organise en collaboration avec le comité des usagers du programme DITSA et du programme DP, déficience physique. Donc, on est toujours plus fort quand on se regroupe et puis on rejoint plus de monde aussi. Mm-hmm. Ce symposium-là, cette année, là, en fait, c'est la troisième année qu'on organise ce type d'événement-là. C'est un symposium sur les droits. Et cette année, le thème de la journée, ça va être la transmission du patrimoine, construire l'avenir de son enfant à besoins spéciaux. Donc, on va aborder des sujets qui ne sont pas vraiment sexy, mais qui sont inévitables.
Oui.
Donc, l'inaptitude, les droits, obligations, régime de protection, les testaments, la fiducie testamentaire, la sécurité financière, comment on transmet notre patrimoine en tant que parent à nos enfants qui ont une limitation, un handicap, comment on détermine leurs besoins de protection, est-ce que ça va venir influencer leurs prestations d'aide sociale. Vous voyez toutes sortes de petits questionnements comme
oui,
ça.
Excellent sujet d'entrevue, ça.
Oui, oui. Oui. Et puis, pour l'occasion, on a invité le notaire Maître Laurent Fréchette, qui est quand même assez connu dans le milieu, surtout dans la région de Montréal, pour justement se spécialiser dans la transmission de patrimoine, mais avec les familles qui ont un enfant avec des besoins spéciaux. Donc, ça risque d'être fort intéressant jusqu'à date. En tout cas, les inscriptions, ça fonctionne bien. Ça va se passer à l'UQAR, campus de Lévis, le 3 février prochain.
Mm-hmm. Ça s'en vient?
Oui, c'est ça. Il nous reste encore quelques places. Là.
Oui, si on veut s'inscrire, on fait quoi?
Ben en fait, vous téléphonez, vous me contactez au 418-248-3055 ou vous m'écrivez par courriel. Vous pouvez vous rendre sur notre site Internet aussi, notre page Facebook. Tous les détails sont mentionnés. Là,
oui, oui. Alors, le courriel, c'est autisme@arc-en-ciel-rpph.com.
C'est bien ça. Et puis, le site web www.arc-en-ciel-rpph.com. Si vous allez dans la section Autisme Chaudière-Appalaches, vous allez tout de suite tomber sur les informations pour le symposium.
Est-ce qu'il y a des bénévoles qui travaillent, qui donnent de leur temps à votre organisme?
Oui, effectivement. Comme là, pour l'organisation du symposium, on a quelques bénévoles qui sont là pour nous aider durant la journée. Et aussi, à chaque année, on fait, là, c'est un petit peu plus loin, ça va être plus en avril. Vous savez que c'est le mois de l'autisme. Donc, on a une belle grosse journée régionale, Autisme Chaudière-Appalaches. Où est-ce qu'il y a des bénévoles aussi qui s'impliquent là, dans l'organisation de cette journée-là. Et puis, au niveau de l'arc-en-ciel, plus localement aussi, dans certaines activités aussi, il y a toujours, souvent, on sait que c'est les parents ou les proches des personnes qui fréquentent nos services.
Mm-hmm.
Mais on élargit. Des fois, c'est le voisin ou l'ami qui vient donner un petit coup de pouce justement pour organiser des belles activités pour nos personnes avec des besoins particuliers.
Alors, vous prenez toujours jour de l'expansion? Parce qu'en 88, c'était des parents qui se rencontraient, puis tranquillement, pas vite, vous êtes reconnue officiellement depuis 1992.
Oui, effectivement, ça a commencé tranquillement, hein, mais c'est vrai que ce qui fait la force de cet organisme-là, c'est que c'est un organisme qui a été fondé par des familles, des parents qui avaient des besoins. Et puis, ça a toujours été justement géré par des parents qui se sont relayés au fil des années, mais qui ont dans le fond, toujours les mêmes besoins, hein? Puis qui ont les mêmes défis aussi au quotidien.
Oui.
Donc,
merci beaucoup, René Hébert, agent d'information et de liaison pour l'organisme L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, volet autisme Chaudière-Appalaches. Bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci. Les policiers apprennent à intervenir auprès des personnes autistes. C'est sur le site de Radio-Canada. Des agents de la Gendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse se demandent comment répondre à la multiplication des appels concernant des comportements violents chez les personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme. Les policiers du comté de Lunenburg reçoivent jusqu'à 3 appels par semaine concernant des personnes autistes. Il y a à peine 2 ans, il était rare que la GRC reçoive de tels appels, explique l'agent Rod Francis du district de Lunenburg. Les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme éprouvent des difficultés de communication et ont des interactions sociales difficiles. Certaines personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme peuvent devenir violentes et agressives à l'occasion. Cette combinaison de facteurs peut compliquer la communication avec la police, en particulier lorsque les tensions sont fortes. La GRC se doit de protéger les personnes qui pourraient se blesser elles-mêmes, ajoute l'agent Rod Francis. Selon lui, tenter de maîtriser les personnes autistes en leur disant d'arrêter n'est pas suffisant. L'agent Francis a organisé une séance de formation de 3 heures pour les agents du comté de Lunenburg, avec l'aide de l'organisme Autisme Nouvelle-Écosse et du conseil scolaire régional South Shore. Environ 30 agents ont participé à la formation. L'utilisation de phrases courtes et une approche calme sont quelques-unes des stratégies dorénavant utilisées par les agents. Sur le site de la Rotonde, Elsa Lalonde, un combat pour l'accessibilité. Étudiante en 3e année en sciences sociales à l'Université d'Ottawa, Udo. Elsa Lalonde s'engage à travers la revendication des droits de chacun dans l'accès à l'éducation pour tous. En plus d'étudier à temps plein, elle travaille au sein du gouvernement fédéral et est bénévole pour différentes associations. Madame Lalonde a également reçu plusieurs reconnaissances qui soulignent sa grande contribution à la cause de l'accessibilité. « Je suis juste une étudiante qui veut avoir son éducation comme tout le monde pour atteindre ses buts », explique Mme Lalonde, qui ne veut pas créer de conflit, mais veut seulement permettre à chaque étudiant et étudiante d'accéder sans contrainte à tous les services qu'offre l'UDO, l'Université d'Ottawa. Ce sont des cours auxquels elle n'a pas pu participer, des salles de classe qui ne lui étaient pas accessibles en raison de son fauteuil roulant, et des équipes sportives qu'elle ne pouvait pas rejoindre qui l'ont poussée à agir. Cette action, elle consiste à tenter d'impliquer davantage l'université dans l'inclusion et l'accès égalitaire à l'éducation pour les personnes handicapées. Elle a d'ailleurs entamé une poursuite légale contre l'Université d'Ottawa, processus lent et chronophage, mais qui, elle espère, sera bénéfique sur le long terme. Madame Lalonde travaille également pour le gouvernement au sein du Bureau de la condition des personnes handicapées. Elle y étudie les lois canadiennes d'accessibilité et se projette au sein d'un tel milieu de travail après ses études. Et en rafale, l'Orchestre symphonique de l'Agora présente Da Ponte, bien culotté avec l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, le 3 février prochain à 19h30 au Théâtre Corona, théâtre accessible à tous. Ce concert-événement est au profit du Carrefour musical de Laval. Il raconte la vie scabreuse du célèbre librettiste de Mozart à travers les airs dont il a lui-même écrit les paroles. Ce spectacle vient d'ailleurs de remporter le premier prix de la bourse Mécène investi pour les arts, décerné par une trentaine de philanthropes montréalais et le Conseil des arts de Montréal. Depuis l'automne 2013, les jeunes musiciens en début de carrière de l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal ont remis plus de 25 000 $ à des organismes de charité montréalais et ont offert des cours, concerts ou ateliers gratuits à des centaines d'enfants défavorisés de Montréal. Je vous rappelle que le spectacle sera présenté le 3 février à 19h30 au Théâtre Corona. Et le RAM vous invite à un 5 à 7 pour souligner la semaine de la canne blanche, mercredi 7 février de 17h à 19h, animé par Yvon Provencher, 5 $. Le RAM vous invite à échanger avec des membres utilisateurs de chiens guides ou une canne blanche. C'est donc une occasion de partager votre expérience. Que préférez-vous utiliser? Pourquoi? À votre avis ou selon votre expérience, quels sont les avantages et les inconvénients à se servir d'une canne blanche? Selon vous, quels sont les avantages et inconvénients à utiliser un chien guide? Vous êtes peut-être en train de réfléchir afin de déterminer si un chien guide est peut-être pour vous. Cette rencontre pourrait vous éclairer dans votre décision. Un petit goûter vous sera offert. Et ça goûtera certainement bon. Inscription obligatoire avant le 2 février avec Anna au 514-277-4401, poste 111. 277-4401, poste 111, ou par courriel administration@ram.org. C'est tout pour les paractualités de ce 24 janvier. Merci à Anne-Laure Janson à la recherche, à Jean-Sébastien Laliberté à la technique. Merci à mes invités Delphine Guy-Bourget et René Hébert. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain.